VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 4 août 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. La société civile centrafricaine maintient son appel pour une journée ville morte demain à Bangui pour protester contre le retour du chef rebelle Ali Darassa à Bambari. Le représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, se dit optimiste sur l'issue de la crise malienne. Des opposants guinéens déposent une plainte en France contre Alpha Condé. À Conakry, le parti au pouvoir se réunit demain pour désigner son candidat à la présidentielle. Le président libanais Michel Aoun a convoqué une réunion urgente du Conseil supérieur de la défense après les violentes explosions au port de Beyrouth. Le coronavirus a fait près de 700 000 morts dans le monde, poussant certains pays au reconfinement. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. La société civile centrafricaine maintient son appel pour une journée ville morte mercredi à Bangui afin de protester contre la décision de réinstaller le chef rebelle Ali Darassa à Bambari. Une manifestation jugée inopportune par le premier ministre Firmin Ngrebada. Le point avec Freeman Sipila à Bangui.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la rencontre à huis clos du Premier ministre Firmin Ngrebada avec le chef rebelle de l'UPC, Ali Darassa, le 25 juillet à Bangui. Dans le communiqué final, le gouvernement a indiqué son intention de réinstaller Ali Darassa à Bambari, deuxième grande ville du pays, pour faciliter les opérations de désarmement. Décision qui passe mal aux yeux de nombreuses organisations politiques et de la société civile, qui passe d'ailleurs à la vitesse supérieure en exigeant la démission du Premier ministre et l'observation d'une journée ville morte ce mercredi 5 août à Bangui. Pour le chef du gouvernement, rien ne justifie cette action. Firmin Ngrebada.
Il n'est nullement question que Ali Darassa revienne à Bambari comme gouverneur ou comme un chef militaire. Ali Darassa devait revenir à Bambari sans ses combattants pour que nous puissions commencer le DDR. Alors, certains de nos compatriotes n'ayant pas compris notre démarche et se croyant choqués ont très vite donné une autre interprétation du procès verbal qui sanctionne la fin de notre rencontre avec Ali Darassa, allant jusqu'à appeler à des manifestations publiques. Mais je tiens à vous assurer ici qu'il n'en est rien du tout.
Malgré les multiples appels des organisations proches du pouvoir, le groupe de travail de la société civile maintient son mot d'ordre pour une journée ville morte à Bangui. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Le représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, ancien président burundais, a déclaré à la Voix de l'Amérique que les efforts fournis par la CEDEAO dans la crise malienne finiront par porter leurs fruits, malgré l'échec récent des dirigeants ouest-africains.
Bon, vous savez, les processus de négociation pour résoudre les crises sont toujours difficiles. On ne réussit pas au premier coup et quand on n'a pas réussi au premier coup, ça veut dire qu'il faut abandonner. Je crois que la recherche de solutions continue. En particulier, les Maliens ont compris que il y a eu échec probablement parce qu'il n'y a jamais eu un dialogue direct entre les protagonistes maliens. Maintenant, ce que nous recommandons, c'est qu'il y ait un dialogue direct entre le gouvernement et l'opposition. Et je pense que des tractations sont en cours pour aller dans cette voie et je pense qu'on finira par y arriver.
C'était le représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, ancien président burundais. En Côte d'Ivoire, plus de 900 000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes électorales cette année, portant le nombre total d'électeurs inscrits à 7,5 millions avant l'élection présidentielle d'octobre, a annoncé Ibrahim Koulibaly, le président de la commission électorale. Un collectif d'opposants guinéens dit avoir déposé plainte en France contre le président Alpha Condé et plusieurs proches pour corruption à la veille de la désignation du candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La plainte a été déposée devant le parquet national financier à Paris pour corruption et trafic d'influence, a déclaré Jean-Baptiste Souffrant, avocat du collectif pour la transition en Guinée. Ce collectif dit soupçonner des faits de corruption commis à l'avantage du président Alpha Condé, son fils Mohamed et du ministre de la Défense Mohamed Diané. Le CTG dénonce des liens qu'il qualifie d'opaques entre le pouvoir de Conakry et l'alliance minière créée en 2015 pour exploiter la bauxite de Boké dans l'ouest de la Guinée. Après l'obtention de son permis d'exploitation, cette société française a cédé le gisement à un consortium franco-sino-singapourien pour un montant de 171 millions d'euros selon les plaignants. Une somme que le collectif estime exorbitante par rapport à la réalité de la situation de cette mine sur le terrain. Ce n'est que la pure calomnie, a réagi une source proche de la présidence, regrettant un chantage avant la présidentielle d'octobre prochain. Le parti au pouvoir va choisir son candidat lors d'une convention les 5 et 6 août. Soupçonnant le président Alpha Condé de vouloir briguer un éventuel troisième mandat, l'opposition organise des manifestations depuis octobre.
L'UNESCO a annoncé la réhabilitation du patrimoine de Bandiagara, en partie détruit par le conflit dans la région de Mopti au Mali. La crise sécuritaire malienne a provoqué la destruction de plusieurs villages sur le site de la falaise de Bandiagara, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Financé à hauteur $1 million, le projet vise à réhabiliter les logements, greniers et sites consacrés à la culture traditionnelle. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a promis de débusquer ses opposants alors que des dizaines d'activistes ont été arrêtés dans la répression. Nous surmonterons les tentatives de quelques voyous agissant avec des détracteurs étrangers de déstabiliser notre société, a-t-il déclaré dans un discours à la Nation. Plus de 200 artistes ont appelé les autorités égyptiennes à libérer la militante Sana Seif et d'autres prisonniers dans une lettre ouverte. Arrêtée fin juin, Madame Seif est accusée de diffusion de fausses informations et d'incitation à des crimes terroristes. Parmi les signataires figurent le Nobel de littérature sud-africain John Kwezi et les acteurs américains Danny Glover et Thandi Newton.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après s'être abattu sur les États de Caroline du Nord, l'ouragan Isaias, rétrogradé en tempête tropicale, remonte la côte atlantique américaine, charriant de fortes pluies. Le point avec Abdourahman Dia.
Isaias balaye ce mardi le sud de la Virginie et du Maryland avec des vents soufflant jusqu'à 110 km/h selon le Centre national américain des ouragans. Des inondations urbaines potentiellement mortelles peuvent survenir dans la capitale Washington ou à Baltimore, a prévenu l'agence dans son dernier bulletin. Le gouverneur de la Caroline du Nord, où l'ouragan de catégorie 1 a touché terre tôt ce mardi matin avec des vents allant jusqu'à 140 km/h, a déploré la mort d'au moins une personne. Environ 3 heures après avoir touché la côte, l'ouragan a été rétrogradé en tempête tropicale. Isaias devrait peu à peu perdre en intensité à partir de mardi soir, alors qu'elle va s'approcher du Canada. Il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés, des inondations dues à la montée de la mer, notamment dans le sud-est de la Caroline du Nord, des voitures qui flottent par endroits, a détaillé Roy Cooper, responsable du NHC, National Hurricane Center. Même si pour l'instant les dégâts ne sont pas très importants, près de 370 000 personnes sont restées sans électricité ce matin en Caroline du Nord.
La pandémie de COVID-19 a fait plus de 690 000 morts dans le monde, avec plus de 18,3 millions de cas d'infection. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé, avec 155 000 décès devant le Brésil et le Mexique. L'Amérique latine a franchi le cap des 5 millions de cas, avec 200 000 morts. La ville française de Toulouse va rejoindre des dizaines de municipalités qui imposent le port du masque dès mercredi, suite à une augmentation des cas chez les 20-30 ans. En Australie, Melbourne a triplé le montant des amendes pour les personnes ne respectant pas le confinement. Les commerces non essentiels vont fermer mercredi à minuit dans la ville sous couvre-feu. Des millions de Philippins ont repris le reconfinement face à une aggravation de l'épidémie. En Afrique, la compagnie aérienne nigériane Air Peace, affectée par la crise, a licencié des pilotes et réduit les salaires. Le président libanais Michel Aoun a convoqué une réunion urgente du Conseil supérieur de la défense après les violentes explosions qui ont secoué le port de Beyrouth. Le premier ministre Hassan Diab a décrété une journée de deuil mercredi pour les victimes. La Croix-Rouge a évoqué des centaines de blessés. De puissantes explosions successives ont brisé les vitres de nombreux immeubles et magasins à des kilomètres à la ronde dans la capitale libanaise. Le secteur du port a été bouclé par les forces de sécurité qui ne laissent passer que la défense civile, les ambulances et les pompiers. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
La hausse du dollar face au franc congolais a provoqué une flambée des prix en République démocratique du Congo et réduit les marges des opérateurs économiques déjà confrontés à la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Après quelques mois de stabilité autour de 1620 francs congolais pour un dollar, le franc a repris sa dégringolade face au dollar américain depuis mi-juillet, provoquant une surchauffe du marché d'échange. Un dollar s'est négocié en fin de semaine dernière entre 2000 et 2030 francs congolais. Les fonctionnaires payés à monnaie locale ont perdu plus d'un quart de leur pouvoir d'achat à cause de l'inflation. En RDC, les transactions se font à 85% en dollars et à 15% en francs congolais. Dans la perspective des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, une réunion du caucus africain est prévue le 6 août à Yaoundé au Cameroun. Selon Financial Afrique, environ 250 délégués d'Afrique ainsi que du FMI et de la Banque mondiale vont participer à une visioconférence sur le thème « Protéger le capital humain de l'Afrique face au COVID-19 ». Sauver des vies, préserver le bien-être, sauvegarder la productivité et l'emploi. Le bénéfice du groupe EcoBank a connu une hausse d'environ 13% au premier semestre 2020 comparé à la même période en 2019. Selon les dirigeants de cette institution basée au Togo, ce bénéfice passe d'un peu plus de 95 milliards de francs CFA au 30 juin 2019 à 106 milliards de francs CFA cette année, soit une augmentation de plus de 10 milliards de francs CFA en valeur absolue.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'international camerounais Adrien Tamézé ne disputera pas la suite et la fin de la Ligue des Champions. Son club, l'Atalanta Bergame, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe aux Grandes Oreilles, ne l'a pas inscrit sur la liste remise à l'UEFA. Le club de Bergame affrontera le Paris Saint-Germain de son compatriote Maxime Choupo-Moting et du Sénégalais Idrissa Ganagé. Adrien Tamézé avait été prêté à l'Atalanta et est attendu à Nice cette semaine, club français avec lequel il reste sous contrat. La Ligue des Champions reprend les 7 et 8 août. En Espagne, Iker Casillas, mythique gardien de but de l'Espagne, championne du monde en 2010, a officialisé sa retraite à l'âge de 39 ans. Aujourd'hui est à la fois un des jours les plus importants et les plus difficiles de ma vie sportive. Le moment de dire au revoir est arrivé, a écrit le portier dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Un malaise cardiaque à l'entraînement en mai 2019 avait mis un brutal coup d'arrêt à sa carrière après plus de 1000 matchs professionnels, même s'il était resté formellement membre cette saison de l'effectif du FC Porto, vainqueur du doublé Coupe Championnat au Portugal. En basketball, les Lakers, portés par 42 points d'Anthony Davis, ont vaincu Utah 116 à 108, s'assurant d'être la tête de série numéro 1 à l'Ouest. Le champion en titre Toronto a confirmé qu'il était aussi prêt pour les playoffs contre Miami 107 à 103. De leur côté, les Denver Nuggets se sont imposés face à Oklahoma City après prolongation 121 à 113. New Orleans, qui devait absolument s'imposer face à Memphis pour rester dans la course au barrage, a réussi sa mission 109 à 99. Bonus pour les Pelicans, San Antonio a chuté d'un rien 132 à 130 contre Philadelphie, cédant la 9e place de barragiste potentiel à Portland. Les Washington Wizards ont été défaits par Indiana 111 à 100. Toujours en NBA, Mike Budenholzer, qui dirige Milwaukee, la meilleure équipe de la saison régulière, et Billy Donovan à la tête d'Oklahoma City, outsider inattendu durant cet exercice 2019-2020, ont été nommés entraîneurs de la saison. Budenholzer, qui avait remporté seul le prix Michael Golbeck. Il rejoint Greg Popovich, Pat Riley et Don Nelson. Le vote de cette année s'est basé sur les matchs joués depuis le début de la saison régulière 2019-2020 jusqu'au match disputé le 11 mars, date à laquelle le coronavirus a interrompu le jeu.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. La tension monte au sein de la classe politique en Centrafrique. L'opposition et la société civile ont lancé un ultimatum de 3 jours au président Faustin Archange Touadéra pour convoquer une concertation d'urgence sur la situation du pays. Elle menace d'engager des actes de désobéissance civile au cas où cette demande ne serait pas satisfaite. Un reportage de Freeman Sipila à Bangui.
L'ultimatum de l'opposition et de la société civile fait suite à une correspondance adressée le 7 juillet au chef de l'État, lui demandant d'organiser une concertation d'urgence avec toutes les forces vives de la nation sur la situation du pays à quelques mois des élections. Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile.
Vous savez pourquoi on demande la concertation? Parce que le régime démocratiquement élu que nous avons mis en place n'a pas pu à lui tout seul régler les problèmes du pays dans le temps. Sinon, on ne serait pas là à demander la concertation. On devrait être en train de se préparer pour aller aux élections. Mais rien ne marche comme il se doit. Il faut donc avoir un consensus politique.
Pour les responsables de ces organisations, la gestion actuelle du pays ne favorise pas un processus électoral crédible et inclusif. L'ancien Premier ministre Nicolas Tsangai, porte-parole de la CO de 2020, la plateforme de l'opposition démocratique.
Touadéra a échoué dans la gestion de l'État. Il a un bilan qui parle contre lui. Il ne pourra pas tromper le peuple centrafricain en disant qu'il a réussi. Parce que quand il était arrivé au pouvoir en 2016, 50% du territoire était occupé par les groupes armés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80%. Il ne peut pas dire que sur le plan sécuritaire qu'il a réussi. Au plan économique, au plan social, au plan de la lutte contre le coronavirus, il ne peut pas dire qu'il a réussi.
Et notre ancien Premier ministre Mahamat Kamoun déplore lui aussi la détérioration de la situation sécuritaire à l'intérieur du pays, ce qui justifie selon lui la nécessité de cette concertation.
Lorsque nous, partis politiques ou d'autres voix dans le pays s'élèvent pour insister, pour dénoncer l'insécurité grandissante sur tout un territoire, ce n'est pas des vains mots, c'est une réalité. On vient d'assister aussi il y a une semaine à une situation à Ouada où on a brûlé tout un quartier, la population aujourd'hui, des milliers de personnes qui se trouvent dans la brousse et un peu partout dans l'Ouampéndé, etc.
L'ancien président François Bozizé, le chef de file de l'opposition Anissé Georges Dologuélé et bien d'autres leaders politiques, tous sont unanimes et exigent la tenue de cette concertation. Ils menacent d'organiser des actes de désobéissance civile si le chef de l'État persiste à faire la sourde oreille. Gervais Lakosso.
Une concertation, ce n'est pas quelque chose qui dépasse le chef de l'État de faire, de mettre en place. Et nous avons dit que c'est un dernier appel. D'ici 3 jours, si ce n'est pas fait, nous allons lancer un mouvement de désobéissance civile pour exiger la convocation de cette concertation.
Depuis le week-end dernier, le pouvoir fait face à d'énormes pressions politiques et sociales. Le groupement syndical des travailleurs de Centrafrique a appelé à une grève de 2 jours à compter de ce mardi. De son côté, le groupe de travail de la société civile appelle à l'observation d'une journée ville morte ce mercredi 5 août à Bangui pour exiger la démission du Premier ministre Firmin Ngrébada. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Au Cameroun, les autorités ont fermé une église chrétienne à Yaoundé qui nie l'existence du coronavirus. Cette communauté évangéliste va jusqu'à prêcher à ses 300 membres d'ignorer les conseils médicaux sur la distanciation sociale, le port du masque et même le lavage des mains. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, le récit est de Lionel Gaïma.
Cette musique est diffusée sur haut-parleur par un groupe de 7 membres du Tabernacle de la Liberté à Yaoundé, la capitale camerounaise. 4 femmes et 3 hommes font du porte-à-porte se présentant comme des évangélistes de la fin des temps. Prudence Maya, 32 ans, dirige ce groupe. Selon elle, Dieu leur a révélé, par l'intermédiaire de leur pasteur Ngoa Atangana, le mois dernier, que les nations perdent leur temps
et ressources à la lutte contre le Covid-19.
Nous demandons à tout le monde de se mettre à genoux, de prier et de savoir que le coronavirus n'existe pas. C'est Dieu qui est en train de punir les actes répréhensibles, les nombreuses guerres dans le monde. Un homme épouse un homme et une femme épouse une femme. Dieu est très en colère.
Parmi les 45 maisons visitées lundi par le groupe figure celle de Léonie Fotso, une fermière de 49 ans qui croit aux enseignements de la petite église et suivra son ordre de ne pas porter de masque.
Ça n'existe pas. Pour nous, ça n'existe pas. Je suis un baya, mais je pars en blouse, je pars partout. Je n'ai jamais attrapé une femme que voici le corona. On a la toux au Cameroun, on a la fièvre, on a un peu de maladie qu'on dit que ça suffit. Les gens meurent comme eux mouraient avant, donc il n'y a pas de différence.
Pourtant, le Covid-19 est bien réel. Depuis fin décembre, la pandémie a fait près de 700 000 morts dans le monde et plus de 18 millions de cas recensés. Le Cameroun a enregistré plus de 17 000 cas et près de 400 décès. Cela n'arrête pas l'église du Tabernacle de la Liberté qui compte quelque 300 adeptes et touche encore plus de gens avec des émissions sur les stations de radio de Yaoundé. La semaine dernière, le gouverneur Nasseri Paul Béa de la région du centre a fait savoir que 3 élèves ont refusé de passer leurs examens de fin d'études secondaires parce qu'il leur a été demandé de porter des masques. Lorsqu'on fait venir leurs parents pour les convaincre de porter le masque, ces derniers, membres du Tabernacle de la Liberté, ont préféré ramener leurs enfants à la maison. Le gouverneur a ordonné à l'église de suivre les mesures de prévention ou mettre la clé sous la porte.
Nous avons déjà fermé cette église pour des pratiques anti-gouvernementales. Vous imaginez, certains de nos jeunes ont refusé les vaccinations. Certains refusent désormais les mesures barrières. Certains refusent même d'aller dans les hôpitaux, disant que si vous mourrez, les fidèles peuvent prier et vous ramener à la vie.
En dépit de la fermeture de l'église, les membres ont continué à organiser les prières et les réunions quotidiennes devant le bâtiment scellé. L'église dit qu'elle envoie aussi quotidiennement 15 groupes de 7 pour prêcher son message erroné sur le coronavirus.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La baisse du franc congolais face au dollar américain a provoqué une flambée des prix en République démocratique du Congo. Après des mois de stabilité autour de 1600 francs pour 1 dollar, la monnaie congolaise a repris sa dégringolade, provoquant une surchauffe du marché d'échange, alors que les fonctionnaires payés en monnaie locale ont perdu plus d'un quart de leur pouvoir d'achat. Eddie Isango a joint le professeur d'économie God Mpoyi à l'université de Kinshasa.
Bon, d'abord, il faut retenir que la monnaie congolaise a toujours eu un grand facteur perturbateur, c'est son environnement économique, les problèmes d'ordre monétaire et la balance des paiements. Mais pour ce qui se passe depuis des jours, c'est que le président de la République avait recommandé au gouvernement de mettre en place un dispositif qui pouvait stabiliser la monnaie dans le contexte de la pandémie Covid-19. Parmi les mesures qui ont été prises, il y a le non-financement monétaire et la Banque centrale a procédé à une injection de devises, ce qui fait que maintenant la monnaie congolaise est en train de s'apprécier. Il s'observe dans les différentes zones ou communes de la ville de Kinshasa que chaque commune a son taux et ça c'est tout à fait normal. Ce sont des aspects psychologiques qui sont liés aux questions monétaires. Le taux indicatif, c'est celui qui a été fixé par la Banque centrale, il est autour de 19, mais au niveau de la cité, on constate qu'il y a des communes où ça se fait à 15, 16, 17. Ça, c'est à mettre sur le dos des aspects psychologiques de la monnaie. Et surtout, comme je disais, que sur les 3 facteurs perturbateurs de la monnaie, il y a les problèmes d'ordre monétaire. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est pas comme chez vous à Washington. En RDC, il y a les cambistes qui brassent une masse importante de la monnaie et cette masse n'est pas maîtrisée par la Banque centrale. Donc c'est ce qui fait que chaque fois qu'il y a des secousses comme ça, il y aura des disparités de taux selon les endroits où vous allez vous trouver. Mais avec le temps, ça va se rapprocher davantage du taux indicatif qui a été fixé par la Banque centrale.
Mais maintenant, quels peuvent être les effets sur les prix sur le marché?
Naturellement, donc tout s'inscrit dans le temps. En fait, la stabilité des prix chronophages, ce n'est pas que dès que les taux chute le matin et que le soir les prix doivent suivre, parce que les opérateurs économiques, ils s'interrogent et se réinterrogent sur la durée de la stabilité. C'est pourquoi au départ, ils ont tendance à résister. Mais au fur et à mesure que la stabilité va s'inscrire dans l'État, les prix finiront impérativement par suivre. Mais à part cela, il faudra également que le ministère de l'économie qui est en charge des contrôles des prix puisse s'impliquer dans cette question.
Vous avez parlé des mesures prises par les présidents de la République et la Banque centrale. Parmi celles-ci, il y a entre autres celles qui demandent aux entreprises minières de ramener
les devises.
60% de leurs réserves en RDC.
C'est dans le code minier. Donc, ce n'est pas qu'on va ravir aux sociétés minières, mais c'est l'argent qui sera logé dans leurs comptes pour leurs transactions nationales. Et cette masse de devises des sociétés minières, dès lors qu'il est placé dans les banques commerciales, ça constitue un matelas de devises pour l'ensemble de la monnaie.
Godem Poyi est professeur d'économie à l'université de Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Plusieurs républicains de premier plan ont formé des comités d'action politique dont l'objectif est de combattre le président républicain Donald Trump aux élections générales de novembre. Steve Reddish de La Voix de l'Amérique examine cette rare révolte contre le propre chef d'un parti aux États-Unis. Le récit est d'Abdourahman Dia.
Nous l'avons totalement sous contrôle. Une personne venant de Chine.
À première vue, on peut penser à une publicité faite par les démocrates pour attaquer le président républicain Donald Trump.
Le Lincoln Project est responsable du contenu de cette publicité.
Mais le Lincoln Project est un comité d'action politique lancé par un groupe d'éminents républicains qui s'efforce de faire tomber l'un des leurs, le président Trump. Parmi eux, l'avocat George Conway, époux de Kellyanne Conway, l'une des plus proches conseillères du président.
Je ne le connais pas. C'est un vrai boulot de merde. Cela ne fait aucun doute. Mais je ne le connais vraiment pas. Je pense qu'il rend un très mauvais service à une femme merveilleuse. Kellyanne est une femme merveilleuse. Et lui, je l'appelle Monsieur Kellyanne.
Les vidéos du Lincoln Project visent les politiques, les déclarations et le tempérament du président Trump.
Ils entrent dans la tête de Donald Trump, ce qui, je pense, est une bonne chose.
Jimmy Tosh est le PDG de l'un des principaux producteurs de porc américains. Le républicain de toujours a fait un don au Lincoln Project pour vaincre le président Trump.
Je suis probablement d'accord avec environ 80% de ce qu'il fait. Mais d'un point de vue moral, je ne peux pas supporter un menteur, je ne peux pas supporter un individu vindicatif.
Le Lincoln Project est totalement hors de propos.
Lui, c'est Chris Wilson, PDG de WPA Intelligence, un républicain qui dirige une société de sondage et d'analyse de données. Il est préoccupé par le fait que le Lincoln Project s'en prend non seulement au président, mais aussi aux républicains du Sénat, dont la majorité est en péril.
Si leur conscience leur dit qu'ils doivent s'opposer à Donald Trump, qu'il en soit ainsi. Je veux dire, je peux respecter ça, mais le fait, la façon dont ils se concentrent maintenant sur les sièges au Sénat me dit que ce n'est pas de nature idéologique. C'est plus une question d'ego et c'est une question d'argent.
Le Lincoln Project a levé près de 20 millions de dollars à la fin du mois de juin. Jimmy Tosh, éleveur de porc dans le Tennessee, veut vaincre Trump et ses alliés au sein du Parti républicain.
Eh bien, je suis un peu déçu par le Parti républicain avec le nombre de catalyseurs que nous avons dans le Parti républicain soutenant la vision de Trump. Je ne soutiendrai aucun candidat républicain au niveau national pour cette année.
Le consultant républicain Rob Stutzman.
Si vous êtes inquiet au sujet de la politique, je suis beaucoup plus à l'aise si les républicains gardent leur majorité au Sénat.
Rob Stutzman est un consultant politique républicain en Californie. Il a écrit que Trump devait être battu. Il dit aussi que les comités d'action politique et les républicains contre Trump doivent se concentrer sur cela.
Ils créent plus ou moins cette passerelle pour que les républicains se sentent à l'aise de ne pas voter pour le candidat républicain en montrant simplement des électeurs républicains ordinaires disant qu'ils ne voteront plus pour Donald Trump, même s'ils l'ont fait en 2016.
Des centaines de personnes qui ont travaillé pour le 43e président américain, le républicain George W. Bush, ont formé un comité d'action politique pour soutenir le candidat présumé du Parti démocrate Joe Biden. L'ancien vice-président recevra un autre soutien lorsque l'ancien gouverneur de l'Ohio et ex-candidat républicain à la présidentielle John Kasich s'adressera à la Convention nationale démocrate ce mois.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.